Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié initialement en 1905, « 100 façons de se défendre dans la rue sans armes » est un manuel français de défense personnelle attribué à Émile André. Cette édition annotée rend accessible un texte bref, illustré et représentatif des conceptions du combat de rue au début du XXe siècle. Son objet est pratique, proposer des réponses corporelles à des agressions de proximité sans recourir à une arme. L'ouvrage ne relève donc ni d'une traité sportive moderne, ni d'une guide juridique de sécurité, mais d'une pédagogie populaire centrée sur des gestes immédiatement compréhensibles. André indique avoir repris et adapté des conseils issus notamment de la boxe française appelée savate et de la lutte. Le livre témoigne ainsi d'une période antérieure à la diffusion massive en France des méthodes japonaises de jujutsu. Sa valeur actuelle tient autant à son contenu martial qu'à son intérêt historique, il montre comment était formulée la simplicité, l'efficacité et la protection de soi dans la culture physique de l'époque. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une défense de rue issue de la savate et de la lutte, le manuel se situe au croisement de deux traditions françaises, de combat la savate et la lutte sans convention. Ce cadre permet de comprendre sa logique technique. La savate apporte le travail des jambes, les coups de pied, les déplacements et les esquives. La lutte apporte la gestion de la très courte distance, des saisies et du déséquilibre. Au lieu de présenter une discipline fermée avec grade, forme ou règlement, André assemble des procédés destinés à répondre à une altercation non sportive. Cette origine explique le caractère direct des propositions, conserver une distance utile lorsque cela est possible, éviter la ligne d'attaque, puis employer un coup ou une action de contrôle lorsque le contact devient inévitable. Les références historiques associées au livre confirment que son auteur a adapté des enseignements d'autres professeurs de boxe et de lutte, plutôt que de revendiquer une méthode entièrement nouvelle. Ce point est important pour lire l'ouvrage avec justesse. Sa cohérence ne dépend pas d'une théorie unique, mais d'une sélection de gestes issus de pratiques déjà connues. Pour un lecteur contemporain, cet assemblage est clair, la continuité entre les arts de combat populaires français et les discours modernes sur la défense personnelle. Il rappelle aussi que la recherche de solutions simples face à une agression précède largement les systèmes contemporains de self-défense. Deuxièmement, la simplicité technique comme réponse à une situation non sportive, le titre annonce 100 façons, mais l'intérêt du livre ne réside pas seulement dans l'accumulation de procédés. Il exprime une ambition de répertoire, envisager plusieurs configurations, afin de ne pas réduire la défense à un seul coup prétendument décisif. La logique rapportée dans les sources et les commentaires est celle d'un jeu simplifié, fondé sur des actions faciles à retenir et ne supposant pas nécessairement un entraînement long et spécialisé. Dans une confrontation de rue, cette orientation privilégie la disponibilité du geste sur la sophistication. Les coups de genoux, les coups de pied bas ou de pointe selon les circonstances, ainsi que les pas de côté pour éviter l'attaque, illustrent cette recherche d'économie. Le raisonnement est concret, un mouvement simple limite le risque de confusion, demande moins de précision qu'une séquence complexe et peut mieux s'adapter à une distance qui change rapidement. Cela ne signifie pas que la pratique réelle puisse être remplacée par la lecture. Les techniques de percussion, de saisie ou de chute exigent du contrôle, une compréhension des risques et idéalement un encadrement. Mais le manuel permet de saisir une idée pédagogique durable sous pression, une défense utile repose davantage sur quelques principes accessibles, positionnement, équilibre et sortie de danger, que sur un catalogue de manœuvres difficile à reproduire. Troisièmement, le corps entier et la gestion des distances dans les réponses proposées, le livre se distingue d'un enseignement limité au point. Son ancrage dans la savate et la lutte conduit à considérer les jambes, les mains, le buste et le placement comme des ressources complémentaires. Cette vision du corps entier est adaptée à la notion même de rue, où la distance entre les personnes peut passer très vite de l'éloignement au contact. Les déplacements latéraux et les parades ont une fonction qui dépasse la simple esthétique martiale, ils visent à ne pas subir frontalement l'énergie de l'adversaire. Les coups de pied et de genoux répondent à des plages de distance différentes, tandis que les actions inspirées de la lutte deviennent pertinentes quand les corps se rapprochent ou qu'une saisie survient. Une telle articulation rend le recueil plus intelligible qu'une liste isolée de coups. Elle révèle une hiérarchie implicite, se placer, éviter ou dévier, créer une occasion de se dégager, puis sortir de la situation. Le lecteur ne doit pas y voir une garantie de maîtrise contre toute violence. Les écarts de force, le nombre d'agresseurs, les armes et l'environnement peuvent rendre toute technique incertaine. Néanmoins, cette attention aux distances est une contribution durable du texte. Elle montre que l'efficacité recherchée repose aussi sur le mouvement et la position, et non sur la seule puissance physique. Quatrièmement, un document antérieur à la standardisation moderne du self-défense, lire ce manuel comme un document de 1905 est essentiel. À cette date, les échanges entre pratiques occidentales de boxe et de lutte et les méthodes japonaises alors en circulation nourrissent des débats sur l'efficacité comparée des systèmes de combat. Les sources relatives à cette édition soulignent que les techniques anciennes françaises pouvaient être présentées comme simples et applicables, sans nier l'intérêt de certains apports du jujutsu. Le livre offre donc un contrepoint utile à l'histoire souvent racontée du self-défense comme une importation exclusivement orientale. Il montre l'existence d'une culture française de la protection personnelle, développée à partir de la savate, de la lutte et de conseils pour le combat hors compétition. Son vocabulaire, ses illustrations et ses priorités appartiennent toutefois à leur époque. Le lecteur ne doit pas lui demander les standards actuels de biomécanique, de prévention du traumatisme, de consentement à l'entraînement ou de cadre légal. Certaines formulations et certaines réponses peuvent paraître datées, voire difficiles à transposer sans prudence. Cette distance historique ne diminue pas son intérêt. Elle le précise. L'ouvrage est particulièrement révélateur de la façon dont un savoir corporel populaire était condensé en instructions courtes, avant la professionnalisation contemporaine de la sécurité et de l'enseignement de la défense personnelle. En dernier lieu, les limites éditoriales et pratiques d'une réédition patrimoniale, l'édition originale à noter présente un double intérêt, celui de la transmission d'un texte ancien et celui de sa consultation comme source historique. Sa forme illustrée facilite l'identification générale des postures et des enchaînements, qualité importante pour un manuel corporel. Des avis de lecteurs saluent un ouvrage instructif, facile à lire et utile pour comprendre les bases historiques de la savate et de la lutte appliquée à la défense. Ils signalent aussi des limites concrètes. La pédagogie visuelle et descriptive a beaucoup évolué en un siècle et certains lecteurs estiment que davantage de schémas ou d'explications seraient souhaitables. Un avis relève également l'absence de deux figures mentionnées dans le texte de cette réédition. Ces remarques invitent à distinguer le document d'origine de l'outil moderne d'apprentissage. Les dessins anciens peuvent clarifier une intention, mais ils ne remplacent ni une démonstration dynamique ni un partenaire compétent. De même, le principe d'une technique simple ne supprime pas les risques liés aux articulations, aux chutes ou aux percussions. La meilleure utilisation du volume consiste donc à le lire avec un regard critique, repérer les principes de placement et de dégagement, apprécier son contexte, puis éviter de traiter ces images comme un protocole autonome d'entraînement. Cette réserve renforce plutôt que ne réduit sa valeur patrimoniale. En conclusion, ce livre s'adresse d'abord aux lecteurs intéressés par l'histoire des arts martiaux français, de la savate et des formes anciennes de défense personnelle. Il peut également intéresser les pratiquants qui souhaitent replacer les méthodes actuelles dans une généalogie plus large que les seuls systèmes contemporains ou japonais. Son bénéfice principal n'est pas de fournir une certification pratique de sécurité, mais de faire comprendre une approche historique du combat de proximité diversité des distances. Usage des jambes et des mains, esquive, déséquilibre et recherche de gestes économes. Les illustrations et la brièveté des indications donnent accès à une pédagogie populaire conçue pour être immédiatement lisible. En revanche, un débutant ne devrait pas considérer ce texte comme un substitut à un apprentissage encadré, à la prévention des conflits, à la fuite lorsque celle-ci est possible, ou à la connaissance des règles juridiques actuelles. Comparé aux guides modernes de self-défense, souvent plus développés sur la prévention, le stress et les contextes légaux, l'ouvrage d'André se distingue par son statut de source historique et par son enracinement explicite dans des pratiques françaises antérieures. Comparé aux manuels sportifs, il se démarque aussi par son orientation vers la rue, plutôt que vers la compétition, malgré les limites de son époque et de certaines rééditions. Il constitue un témoignage concis et singulier sur les techniques de protection personnelle au début du XXe siècle. Si vous souhaitez soutenir Émile André, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.